Alors, bonjour tout le monde. Alors, Cheryl et moi, on est revenus de nos vacances d'été. On était là la semaine passée. Et bien, c'est la première fois que je viens au micro. Alors, bonjour à tous et je suis heureux d'être avec vous ce matin. Alors, on revient dans les psaumes ce matin. Et oui, on laisse les... La gang du Pays des Merveilles a besoin d'un peu de temps pour sortir et aller s'installer en bas. C'est merveilleux. Pardon? Non?
Je pense que je vais monter ça un peu. On va essayer.
Ah oui, alors, donc, cet été... entre autres, dans les nouvelles, on parle d'élections. Élections importantes qui s'en viennent dans de nombreux pays, y compris au Canada et y compris chez nos voisins du Sud, aux États-Unis. Et on voit dans les nouvelles que les problèmes de société sont grands et nombreux et souvent s'aggravent. Les populations souffrent parfois beaucoup. Mais en général, toutes les populations s'inquiètent de l'avenir. Et on remarque que les populations exigent de plus en plus de leurs futurs responsables politiques. Elles exigent de plus en plus, mais les moyens d'action de ces leaders, très souvent, diminuent. Alors, ça crée un cercle difficile et il y a beaucoup d'insatisfaction. Et donc, c'est pour ça qu'on change de leader. C'est possiblement ce qui va arriver dans des pays comme le Canada, peut-être un nouveau parti au pouvoir, on verra. Prions pour nos responsables politiques. La Bible nous demande de le faire. Et en même temps, n'oublions pas et soyons encouragés par le fait que notre vraie patrie, elle n'est pas ici. Notre vraie nation, c'est la nation céleste, c'est la nation éternelle. Notre vrai roi, il ne faut pas oublier qui il est. Et le psaume de ce matin va nous le rappeler. On va lire le psaume 2, mais d'abord, prions. Merci, Père. Comme on a dit, merci pour ta parole. Ta parole qu'on veut écouter, ta parole qui vient nous transformer, ta parole qui est ton règne dans notre vie. Si nous, on dispose nos cœurs pour l'accueillir, nous avons chanté « Viens régner en moi » et ma part, c'est de m'ouvrir à ta parole, c'est de décider aussi d'obéir avec ton aide. Alors, donne-moi cette docilité de cœur en ce moment pour entendre ce que tu as à nous dire. Et si j'ai des questions sur des mots, des passages difficiles, donne-moi de le prendre au sérieux, mais aussi d'avoir confiance que toi, tu as la réponse et que tu vas me la donner au bon moment. Amen. Alors, lisons le psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Alors, dans notre série sur les psaumes de cet été, on va considérer une catégorie spéciale de psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques. Il y en a plusieurs, et ce sont des psaumes de louange de Dieu, mais indirects. Alors ici, on loue Dieu pour le fait qu'il a établi un roi pour accomplir sa volonté sur la terre, un roi sur le peuple de Dieu. Dieu agit sur la terre à travers un peuple, à travers des leaders qu'il choisit pour le peuple. Et en Israël, c'était des rois. Et voilà, il y avait des psaumes qui célébraient ces rois-là. Mais vraiment, ultimement, c'était toujours l'Éternel qui était célébré, puisque les rois étaient temporaires. Le mot « messianique » vient du mot français « messie ». Mais ça, ce mot-là vient du mot « hébreu, Mashiach. Et le mot Mashiach signifie celui qui est oint d'huile, celui sur qui on a versé de l'huile. Dans notre société, ça ne se fait pas de verser de l'huile sur quelqu'un. Quoique, on a certaines traditions, c'est un symbole important de verser de l'huile. Bible, parce que dans le monde biblique, c'était un symbole important de verser de l'huile sur la tête de quelqu'un. Dans l'Israël ancien, celui qui est oint, donc ça c'est un verbe pas très connu, oindre, c'est comme verser, badigeonner, c'est comme, il y a comme l'idée de recouvrir la peau de quelqu'un. Celui qui est oint d'huile dans l'Israël ancien, c'est quelqu'un qui est consacré par Dieu pour faire une œuvre sacrée. Et l'huile symbolise l'Esprit de Dieu qui vient sur la personne pour qu'elle puisse accomplir ce travail que Dieu lui donne. Alors, c'est quelque chose de très beau, de très réjouissant, même si c'est comme bizarre pour nous de verser un liquide glissant et gluant sur la tête de quelqu'un. C'était quelque chose d'important, pour, notamment pour les rois. Et dans l'Israël ancien, un monde qui a très longtemps, on faisait ça à chaque fois qu'on couronnait un roi. Et donc, ça veut dire qu'il y avait plusieurs messies. À chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, il y avait un nouveau messie. Tous les rois d'Israël étaient appelés des messies. Je dis ça parce que nous qui sommes chrétiens, on se dit, mais il y a un seul Messie, un seul Christ, c'est Jésus. Mais en fait, Dieu avait préparé avec des rois qui préfiguraient celui qui allait venir. Puis j'ai dit le mot Christ, quand on dit Jésus-Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Jésus, c'était le fils de Joseph, on l'appelait aussi Jésus de Nazareth, mais quand on dit Jésus-Christ, c'est son titre. Christ, c'est Messie. Christ, c'est quand on a traduit la Bible en grec, on a pris le mot « oint d'huile » en grec, et c'est Christos. Alors, quand on dit Christos, ou Christ, ou Messie, ou Mashiach, c'est toute la même chose, c'est celui qui est oint d'huile. Et alors, tout ça, ça pose la question, dans le psaume 2, dans les premiers versets qui est dit, « Le monde se rebelle contre Dieu et contre son Messie, contre celui que Dieu a oint d'huile. » Il faut se poser la question, de qui parle le psaume ici, le psaume 2? De quel roi établi par Dieu, est-il question ici? À qui est-ce que Dieu donne l'onction d'huile? Et donc, c'est important pour nous de comprendre comment lire les prophéties de l'Ancien Testament et aussi les psaumes messianiques en général. Comment les lire? Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a en fait deux niveaux. Il y a deux plans. Dans un psaume comme celui qu'on vient de lire, il y a un accomplissement immédiat. C'est un chant qu'on chantait dans le temple quand on couronnait un nouveau roi. Et il y avait un accomplissement immédiat dans la vie de ce nouveau roi d'Israël, comme David, comme Salomon, ou le fils de Salomon, ou ainsi de suite. Mais on voit que le langage du psaume va plus loin. Et donc, il est question de quelque chose qui, finalement, les lecteurs, les adorateurs se sont rendus compte, il y a quelque chose qui va arriver plus tard pour que ça soit pleinement accompli. Chaque roi d'Israël représentait imparfaitement le Messie des temps de la fin. Chaque onction d'un nouveau roi, ça donnait l'espérance, « Ah, c'est peut-être lui qui va accomplir tout ce qui est dit ici. » Et chaque fois, le peuple d'Israël était déçu et il disait, « Il faut qu'on attende encore. » Chaque roi était une préfiguration. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, quand on lit un psaume comme celui-ci, c'est une question de perspective. Alors, voyez-vous, j'ai pris cette photo dans un livre qui explique la perspective prophétique. Quand on lit le psaume 2, regardez à gauche, voyez-vous deux cercles? Voyez deux cercles. Ça, c'est la vue de face. Quand on lit le psaume, à prime abord, toutes les paroles, on les voit de face. Et on voit comme deux cercles. Et quand on a une deuxième perspective, quand on réfléchit avec le temps, on voit que ces deux cercles, c'est comme deux disques qui sont l'un derrière l'autre. Un petit disque en avant, un grand disque en arrière. Et en fait, il y a une partie des paroles qui vont se réaliser dans l'immédiat, mais en fait, toutes les paroles vont se réaliser dans le deuxième moment. Et ça, c'est quand Jésus-Christ vient. Est-ce que vous me suivez? OK, il y a comme deux réalisations, mais une seule parole. Et c'est ça qui est parfois difficile, mais il faut apprendre à lire les prophéties de l'Ancien Testament comme cela. Les réalités spirituelles dont parle le psaume 2 se clarifient avec le temps à cause de ces deux plans. Quand Jésus est venu, il a été déclaré roi par sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Et en plus, tout ce qui est dit dans le psaume n'est pas encore totalement accompli. On pourrait dire qu'il y a comme un troisième disque quand il va revenir et quand il va juger les nations. Mais ça donne une idée qu'il y a des réalisations à différents moments. Et voilà une des richesses de la parole de Dieu. Mais il faut qu'on apprenne à la lire avec intelligence. Moi, je voudrais vous parler de certaines vérités importantes qui sont proclamées par ce psaume, qui sont importantes pour nous, pour comprendre le plan de Dieu et comprendre comment vivre dans ce plan. On va y aller une à la fois, donc strophe par strophe. La première vérité, c'est dans la première strophe de trois versets, versets 1, 2 et 3. La première vérité, les peuples de la terre et leurs chefs sont en rébellion contre Dieu. C'était le cas dans l'Ancien Testament. Donc, Israël avait l'audace de dire, c'est pas de notre faute, mais on a été choisis pour Dieu, pour être ses représentants et recevoir ses bénédictions. Et souvent, les autres peuples se moquaient de ça ou étaient jaloux de ça et devenaient des ennemis. Mais c'est la même chose aujourd'hui. les nations s'opposent à Dieu, au Dieu de la Bible, à la volonté de Dieu et à sa parole. Cet été, moi, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir regarder les Olympiques à la télé, peut-être d'autres aussi. J'étais ébloui par les cérémonies d'ouverture et de clôture, surtout d'ouverture, des Jeux olympiques. C'était de toute beauté. Il y avait même des choses encourageantes au niveau de la fraternité humaine, mais ce qui m'a attristé, c'est que la référence au Dieu créateur, celui qui nous a donné nos corps pour faire du sport et pouvoir faire ces choses extraordinaires, et nous a donné l'intelligence pour inventer les sports et réglementer les sports, cette référence au Dieu créateur était totalement absente, et c'était exprès, ça m'a rendu triste. On voit cette réalité aussi dans la vie sociale et politique ici au Québec et au Canada. Il y a un grand effort qui est mis pour ôter les références à Dieu et à ce qu'on appelle la transcendance, c'est-à-dire ce qui est au-delà du monde matériel, dans notre culture publique. Le monde occidental veut effacer les références à son passé chrétien, qu'il voit comme des chaînes qui nous retiennent et qu'il faut rejeter loin de nous. Hein? On voit ça dans le psaume. Les rois qui disent, on veut se libérer des chaînes de l'Éternel. Et c'est ce qu'on voit dans la vie publique, dans notre propre pays. Alors, c'est vrai aussi, quand on regarde l'histoire des pays et du Québec aussi, que lorsqu'un groupe religieux accède au pouvoir politique, il va s'acharner à établir des lois religieuses qui finalement ne sont pas saines parce qu'elles oppriment les gens. Et ça ne vient pas de Dieu non plus. En fait, ces deux extrêmes sont des manifestations opposées d'une même rébellion contre Dieu. Dieu a toujours su ce qui était nécessaire pour nous sortir de notre problème moral et spirituel de rébellion contre lui. Et voilà pourquoi il a envoyé son Fils. Jésus est une nouvelle sorte de roi qui n'est pas un roi politique comme nous on l'entend. C'est un roi qui a fondé une nouvelle sorte de nation et chaque personne qui reçoit le Fils, qui reçoit le nouveau roi, peut devenir transformé de l'intérieur et devenir citoyen de cette nouvelle nation qui obéit de cœur à la volonté de Dieu. Encore faut-il accepter de se laisser transformer par Dieu. Et donc, la deuxième vérité qui est proclamée par ce psaume dans les versets 4 à 6 va plus profond et dit à toute l'humanité, attention, après la patience de Dieu vient le jugement. Après la patience de Dieu vient le jugement. Attention, peuple de la terre. Alors, il est question dans ces versets d'une colère de Dieu qui paraît dure. En réalité, la Bible dit que Dieu aime tous les hommes et veut qu'ils soient sauvés. La Bible dit aussi, et c'est Dieu qui parle, « Est-ce mon désir que le méchant meure? » Non. Mon désir, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Hein? En parlant de son jugement, c'est ce que Dieu dit. Et ce verset d'Ézéchiel 18-23, « Est-ce mon désir que le méchant meure? Non, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. » Ce verset, c'est le verset préféré et archi important dans la vie de notre ami Asmik Jean-Jacques, le pasteur qui est aussi le directeur du centre ici, qui est un centre pour les jeunes. Asmik a grandi ici dans le quartier. Plusieurs le connaissent, mais je raconte brièvement l'histoire. Et il a pris un mauvais tournant. Il a subi des mauvaises influences. Et il s'est impliqué dans le monde de la criminalité. Il s'est retrouvé en prison. Et jeune, mais un aumônier le visitait. Et quand Asmik a entendu ce verset-là, « Est-ce que c'est mon désir que le méchant meure? » Non, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Eh bien, ça a été un déclic pour Asmik. Il a donné sa vie à Christ. Et non seulement est-ce qu'il a donné sa vie à Christ, mais il a dit, « Je veux changer le quartier d'où je viens, le quartier où j'ai découvert la criminalité, qui était une fausse piste. » Et de fil en aiguille, il est devenu pasteur de fil en aiguille et a fondé le centre ici pour aider les enfants à connaître Dieu et connaître une vie responsable. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oui. La Bible dit que Dieu a de l'amour pour les pécheurs et les rebelles. Et chacun de nous qui sommes chrétiens, c'est sûr qu'on compte sur cet amour-là. On s'appuie sur la patience de Dieu et sur sa miséricorde. C'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Et la Bible dit, n'en abusez pas trop et n'attendez pas trop longtemps. Le jour pour répondre à l'appel de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. N'abusons pas de cette patience pour notre propre vie de chrétien, ni pour nos amis, nos parentés à qui nous parlons du salut. Je parlais à un frère avant la célébration, pour tout vous dire, c'est Michel, et tu es allé visiter un frère, et moi, ce que j'aime en Michel, excuse-moi, de parler de toi comme ça sans t'avertir, toujours, toujours en prière pour les membres de sa famille, toujours à l'affût d'une occasion pour le rappeler, Christ, c'est ton sauveur. Dieu est patient avec toi, mais attends pas trop longtemps. Enfin, c'est pas ça que tu as dit, mais c'est vraiment ça dans ton cœur. Et ça me parle quand tu me parles de ton fardeau pour ceux pour qui tu pries. Puis c'est la même chose pour notre nation. La patience de Dieu pour notre nation est là, mais il faut agir maintenant. Il faut prier maintenant. Donc, ces versets parlent de le jugement. Alors, Dieu délègue son jugement au Messie, et c'est ce qui est arrivé avec les rois d'Israël, mais d'une manière toute spéciale avec Jésus et de manière totale. C'est vraiment Jésus qui va juger les hommes à la fin du monde. J'aimerais revenir sur cette question du langage sévère, et notamment ce rire de Dieu. Dieu va rire au moment du jugement. C'est surprenant de la part d'un Dieu aimant. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je pense que Dieu va surtout être triste au moment du jugement de la personne qui aura refusé jusqu'au bout. Un rire plus dépité, un rire de déception presque. C'est comme, comment as-tu pu manquer de sagesse à ce point-là? Quand ce sera le dernier moment, quand le temps de la patience sera terminé? Ça me rappelle d'une situation avec un étudiant. Je change certains détails, mais en gros, ce qui s'était passé, c'est que dans un cours que j'enseignais à la faculté de théologie, l'étudiant, qui était un bon étudiant, mais avait comme décidé, pour diverses raisons, de jamais commencer le travail de session. Et le travail de session comptait pour 50 % de la note finale. Donc, impossible de réussir le cours sans faire le travail de session. Il y avait d'autres travaux, il y avait des examens. Et j'avais mis des travaux préparatoires pour faire le travail de session, juste pour que les étudiants se préparent pour faire ce gros travail. Et cet étudiant-là faisait même pas ces travaux-là. Et pourtant, les autres travaux et les examens, il les avait faits. Alors, moi, j'ai vu que son travail n'arrivait pas. Je lui ai écrit, n'oublie pas de faire ton travail. Et il dit, ah oui, j'ai certains empêchements, mais donnez-moi un délai. Je lui ai donné un délai. Le délai passe. Non. OK, je te donne quelques jours de plus. J'étais vraiment indulgent. Pas de travail après le délai final. Et finalement, je dis, mais regarde, je crois qu'il faut que tu refasses le cours. C'est la meilleure chose pour toi. C'est comme le jugement, pas de Dieu, mais du professeur est tombé. Il a eu une note d'échec. Il me contacte, il me dit, mais professeur, c'est comme, c'est dur ce que vous me faites là. J'ai jamais eu d'échec dans le passé. Je vous propose quelque chose. Donnez-moi une moyenne sur les travaux que j'ai faits. Oubliez ceux que je n'ai pas faits. Et puis, vous allez voir, je vais avoir une note de passage. Mais sur le coup, j'ai ri, mais ce n'était pas un rire de joie, c'est un rire de tristesse, finalement. Mais c'est pas comme ça que ça marche, mon frère. Et finalement, la personne doit reprendre le cours. Je ne sais pas si elle l'a repris encore, je ne pense pas. Mais tout ça pour dire que c'est une manière peut-être de comprendre qu'à un moment donné, donc Dieu tend les bras, mais à un moment donné, le temps de la patience se termine et là, il faut regarder ce qui s'est vraiment passé. Ce que cet homme, ce que cette femme, avec son libre arbitre, avec sa liberté, a décidé par rapport à la volonté de Dieu. Je pense que le temps avance vite et je vais peut-être conclure maintenant et je reviendrai sur les autres vérités de ce psaume, possiblement à un autre moment. Je voudrais conclure avec une histoire qui m'est arrivée très récemment, et puis le fait qu'après la patience vient le jugement. Et n'oubliez pas, je vous ai dit plus tôt cet été, il y a plusieurs jugements de Dieu. Donc, dans le temps de patience, quand on amène quelqu'un à la croix de Christ, on l'amène à un jugement qui va amener le salut et qui fait qu'il ne passera pas par le jugement dernier. Hein, comme Jésus a dit, celui qui croit en moi et en celui qui m'a envoyé ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Laisse-toi juger à la croix. Repens-toi. Laisse Christ prendre sur lui-même le jugement pour que toi, tu vives. C'est le moment. Mais l'histoire que je voulais vous raconter, c'est par rapport à l'incrédulité. J'étais chez un ami récemment. On était un petit groupe autour d'un feu de camp. Donc, cet ami a une grosse cour et une enceinte dans sa cour où il peut faire des feux de camp. Cette enceinte est entourée d'un cercle métallique avec comme un petit mur en métal de l'épaisseur d'un baril, mais haut peut-être comme ça, 6 pouces ou mettons 15 centimètres à peu près. Et il y avait un beau feu à l'intérieur de l'enceinte qui brûlait beau et chaud. Et j'ai vu quelque chose qui bougeait à l'intérieur de l'enceinte. C'était une grenouille qui a sauté. elle était piégée dans l'enceinte, mais sur le bord. Et là, la bordure était trop haute pour qu'elle saute, pour sortir. Et nous, on a essayé de la sortir, la pauvre grenouille qui était piégée. Premièrement, avec un bâton, ça n'a pas marché. La grenouille s'éloignait. Puis, avec un râteau, on a essayé de la scooper, de la propulser. Ça n'a pas marché non plus. Finalement, j'ai pris une cuillère. J'ai pris une cuillère et j'ai réussi à asseoir la grenouille dans la cuillère. Et au moment que j'étais pour la propulser, elle a pris peur encore une fois. Elle a sauté. Mais cette fois-ci, malheureusement, directement dans les flammes. Ah ouais. Elle est morte immédiatement. J'imagine qu'elle n'a pas trop souffert. Mais quand même, c'est une histoire troublante et triste qui m'a secoué. Et pour moi, je l'ai pris comme une illustration de ce que dit le psaume. L'illustration du manque de sagesse fatale de ceux qui fuient leur sauveur jusqu'au bout. Ce n'est pas une bonne idée. Et c'était aussi pour moi un petit goût de la tristesse de Dieu, la tristesse du sauveur lorsqu'on refuse son aide. Donc, écoutons les versets du psaume. Roi de la terre, hommes et femmes de la terre, conduisez-vous avec sagesse. De peur, venez au Fils, soumettez-vous à lui. De peur qu'au moment final, vous n'alliez à votre perte. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Père, c'est avec tremblement qu'on parle de ce genre de textes qui sont dans la Bible. Mais ils sont là et tu nous les donnes pour notre bien. Et dans ta grâce, tu nous aides à les lire bien, à les lire avec la sagesse que tu as donnée à ton peuple, à tes enseignants de tous les âges qui nous aident. Mais aussi, on ne peut pas contourner le fait que tu nous avertis dans ton amour. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin qui doit prendre cette décision d'ouvrir son cœur à ta loi, ô Père, donne-lui la force de le faire. Et rassure cette personne que ce n'est pas un danger pour lui, mais c'est quelque chose qui va l'amener dans un monde de grâce, de bonheur et de joie. Sois rassuré, ma sœur, mon frère. Accepte le Fils ce matin. Mais aussi, pour ceux qui prient pour quelqu'un de sa famille, un ami, un collègue, un patron. Pardonne-nous de redoubler de prières, d'avoir confiance que tu nous entends, de prier aussi pour nos chefs politiques qui possiblement sont très aveuglés par rapport à ton évangile. Mais tu peux venir les toucher. Tu peux mettre quelqu'un sur leur chemin pour leur parler. Nous te prions pour que nous puissions voir ton évangile sauver des âmes. Nous prions cela au nom de Christ. Amen.